à tout prix la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je m'appelle Laurent Duru, je suis compositeur et pianiste. Je vous parle aujourd'hui car j'ai eu le prix Pierre Cardin, il m'a été décerné par l'Académie des Beaux-Arts. Je suis invité aujourd'hui à vous parler de mon travail. J'ai autour de 15 minutes pour vous parler, donc j'ai décidé de commencer par brièvement vous exposer un petit peu mon parcours, qui est à la fois relativement traditionnel et en même temps qui a ses particularités qui peuvent éclairer ma manière de travailler. Ensuite, je vais vous parler d'une œuvre récente, une ou plusieurs œuvres récentes, puis une œuvre qui est actuellement en chantier, et enfin les projets futurs. Voilà, dans l'idée que chaque temporalité de ces œuvres peut éclairer d'une manière ou d'une autre ma pratique de la composition. Alors, mon parcours, comme je vous le disais, est relativement... j'ai oublié de déclencher mon chronomètre. Je vais reprendre. Bon, vous pouvez relancer. Donc, comme je vous le disais, mon parcours est relativement traditionnel. J'ai grandi dans les Vosges, où j'ai commencé le piano. D'abord en cours particulier, puis au conservatoire de Nancy. Et je suis entré dans la classe de piano de Bruno Rigouteau en 98. Et là, je suis resté 13 ans au conservatoire. C'est là où, déjà, une petite particularité, c'est ma difficulté à partir de ce conservatoire. En effet, j'ai commencé par le piano. Alors là, le côté drôle de cette histoire, c'est que je suis resté seulement 3 ans dans la classe de piano, dans l'idée de partir rapidement. Parce qu'en effet, un certain nombre de choses dans l'atmosphère de cette classe me convenaient relativement peu, notamment un esprit de compétition très très exacerbé. Et moi, je traînais beaucoup avec les gens en écriture, les compositeurs, et j'avais très envie de rejoindre ce monde-là qui était plus serein et sur des problématiques un petit peu moins égocentriques, disons. Donc, je suis parti rapidement de la classe. Et je suis rentré dans les classes dites d'érudition, un petit peu pompeusement. Je suis rentré, alors je ne connais plus l'ordre exact, j'ai fait de l'improvisation chez Alexandros Marqueas, j'ai fait l'écriture chez Olivier Trachier, des classes très très passionnantes, très, très diverses, hein, puisque l'improvisation générative, c'est vraiment comment composer dans l'instant avec des matériaux aussi divers que des sons, des bruits, des chaises et autres accessoires. Et puis la classe d'Olivier Trachier, pour le citer, c'est la classe de contrepoint Renaissance. Donc là, vous avez vraiment le grand écart qui est opéré. Et évidemment, j'ai terminé par la classe de composition avec Frédéric Durieux. J'ai terminé en 2011 exactement. Je suis ensuite rentré, comme beaucoup de mes camarades, au cursus de l'IRCAM, qui, pour tout compositeur s'intéressant à l'électronique, est un passage assez important. J'y suis resté 2 ans. Et je suis ensuite allé à la Villa Médicis pour 18 mois comme pensionnaire. Donc ce parcours assez institutionnel m'a permis de déployer un certain nombre d'activités, donc la composition, l'improvisation, j'improvise beaucoup à l'électronique, et je vous en parlerai peut-être tout à l'heure. J'enseigne également le piano au Conservatoire du 14e arrondissement à Paris. Ces trois activités s'équilibrent, j'espère, le mieux possible, bien que, évidemment, quelquefois, c'est un peu compliqué de jongler avec tout ça. Alors, à présent, je vais vous parler donc d'une œuvre toute récente qui présente certaines caractéristiques de mon travail en général et qui venait d'être créée au moment où j'ai appris cette bonne nouvelle du prix Pierre Cardin. Cette pièce s'appelle Dronocratie. Et donc, son titre évoque deux thématiques que je voulais aborder. La thématique géopolitique de l'utilisation militaire du drone armé au Moyen-Orient, et plus particulièrement par l'armée américaine. Aujourd'hui, l'armée française, depuis quelques mois, est également pourvue de drones, mais à l'époque, c'était surtout les États-Unis qui utilisaient ces objets volants sans pilote. À cette époque, j'ai découvert, à l'époque de la conception du projet, j'ai découvert un livre passionnant qui s'intitule « La théorie du drone » de Grégoire Chamaillou, qui est donc une œuvre qui parcourt les tenants, les aboutissants de l'utilisation en guerre de ces machines. Parce qu'évidemment, il y a tout un volet éthique très important à considérer et qui d'ailleurs a fait beaucoup débat, un petit peu en France, mais surtout aux États-Unis. Et l'explosion d'utilisation du drone sous la présidence de Barack Obama a suscité beaucoup d'interrogations et de protestations, notamment chez les étudiants et dans les réseaux artistiques. Donc la dronocratie, finalement, qu'est-ce que c'est? Ce serait un monde dans lequel le pouvoir exerce sa politique et sa pression de pouvoir via des machines contrôlées à distance, puisque les drones militaires sont contrôlés depuis l'Alabama ou depuis un porte-avions, et donc vous permettant de détruire à 5 000 km de distance une habitation ou un convoi. Mais la dronocratie, c'est aussi pour moi un monde musical dans lequel les lois musicales seraient régies par cet objet musical qu'on appelle le drone. La musique de drone, en fait, le drone, c'est un son qui peut être de nature très très variée, mais qui a pour caractéristique principale le fait de s'étirer dans la durée, dans de très grandes durées, pour ainsi dire de ne pas avoir réellement de début ni de fin. Et toute la dimension expressive, ou en tout cas musicale de ces sons, réside dans la vie intérieure microscopique que vous trouvez dans ces sons. Et mon idée dans Dronocratie, c'était évidemment de parler du premier sujet en utilisant le vocabulaire du deuxième sujet, tout en jouant évidemment sur le jeu de mots autour du terme de drone. Alors, c'est une pièce qui a été écrite pour quatre musiciens de l'ensemble intercontemporain, avec des textes écrits par Ferdinand Barbet, qui m'a assisté dans la mise en scène, mais aussi des textes issus de l'Ancien Testament, ou plutôt plus particulièrement du livre des psaumes, et notamment le psaume 139, qui est un psaume très intéressant puisqu'il décrit l'ubiquité de Dieu, du Dieu des chrétiens. Je l'ai amené avec moi pour vous en citer quelques passages de ce psaume 139. Donc ça commence comme cela. « Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Que je m'assoie, que je me lève, tu le sais. Bien avant que je n'y pense, tu le savais. Que je sois en voyage ou couché, tu m'observes. Tu me suivras en tous mes chemins. » Voilà, je saute quelques vers. Ne pourrais-je emprunter les ailes de l'aurore et qu'elle me dépose au-delà des mers? Mais ce sera ta main qui m'y aura conduit. Seule ta main droite peut aussi m'emporter. Et je saute encore un peu plus loin. Tes yeux voyaient la suite de mes jours. Ils étaient tous inscrits sur ton livre, formés avant que le premier n'apparût. Ô Dieu, que tes pensées me dépassent, leur ensemble défie la raison. Plus que le sable, leur nombre échappe à mes calculs et je n'en finis pas d'être avec toi. Alors il y a toute une première partie dans ce psaume qui décrit cette capacité de la divinité de savoir tout, à tout moment, tout le temps et partout. Et il y a une deuxième partie aussi intéressante pour ce projet qui devient beaucoup plus sombre et beaucoup plus violente car le poème évoque l'ennemi du chrétien. Ô Dieu, si tu voulais faire périr le méchant et tenir les violents loin de moi, ils te trahissent de façon hypocrite, ils comptent pour rien tes desseins. Ne dois-je pas, Seigneur, haïr qui te déteste, etc. etc. Et donc, avec une très grande violence. Alors évidemment, quand on évoque toute cette guerre, d'idéologie, cette fausse guerre de religion, puisqu'évidemment il y a tout un tas d'intérêts économiques en arrière-plan, ce psaume est fascinant, puisque avec des mots et des images qui sont millénaires, on parle d'une réalité actuelle. Donc c'est pour ça que ce psaume est devenu central. Dans cette œuvre, j'invoque évidemment la figure d'Obama lui-même, sous la manière d'une vidéo, puisque Obama a dû plusieurs fois se défendre de sa politique. Et donc, au centre de la pièce, vous pouvez voir Obama qui explique pourquoi l'utilisation du drone est un exemple de propreté de guerre propre, comme il dit. Voici pour une œuvre récente. Alors, en ce moment, je suis en train de travailler sur un concerto pour hautbois et un premier point commun que vous pouvez trouver entre ce concerto que j'écris pour Olivier Stankiewicz, qui est le soliste du London Symphony Orchestra, est le fait que je m'intéresse à une musique qui n'est pas à proprement parler, une musique avec un vocabulaire de musique contemporaine. En l'occurrence, ici, c'est très vaste, hein, mais ce sont les musiques traditionnelles. Parce qu'en effet, le hautbois pour lequel je dois écrire en tant qu'instrument soliste fait partie de ces instruments qui comportent un nombre incroyable de cousins de par le monde. Et chacun de ces cousins comporte dans sa sonorité une très très grande force, je trouve, expressive. Et qui m'a fortement impacté quand j'ai commencé à creuser le sujet. Alors, donc c'est un concerto d'une forme beaucoup plus classique. Hein, c'est un orchestre avant qui accompagne le soliste. Vous avez trois mouvements, vif, lent, vif. Et chaque mouvement a un titre lui-même tripartite, qui est pour moi chaque mot est pour moi la manière d'évoquer une des facettes du thème que j'ai choisi pour ce concerto. No Border. Pourquoi No Border? J'évoque ce réseau en fait de personnes qui luttent activement aux côtés des migrants, que ce soit en France ou en Afrique ou de par le monde, même à la frontière entre le Mexique et aux États-Unis. Les No Borders sont ces personnes qui, dans l'anonymat et en clandestinité, aident de manière très, très ponctuelle et très concrète. Les personnes de passage qui sont dans le besoin et qui ne trouvent pas quelquefois les bonnes réponses auprès des associations gouvernementales. Donc No Border Concerto, c'est pour moi donc un concerto qui évoque l'absence de frontières pour la musique, l'absence de frontières pour les instruments de musique et finalement la fraternité, je dirais, de toutes les musiques autour du monde, y compris une musique qui se veut plus conceptuelle, je dirais, qui est celle que je pratique. Et donc, avant de venir, j'étais en train de travailler à une berceuse qui va se placer en début du troisième mouvement, une berceuse pentatonique. Alors, comment traiter le pentatonisme, qui est une gamme extrêmement partagée dans les musiques du monde. C'est le penta, ça veut dire donc 5 tons. C'est une gamme à 5 sons différents que vous trouvez beaucoup en Asie, en Chine notamment, mais vous trouvez aussi en Afrique et en Asie, et en Amérique du Sud. Comment traiter le pentatonisme d'une manière occidentale contemporaine. C'est pour moi exactement la même approche que la question de traiter le drone dans une musique écrite, alors que le drone est par essence, tout comme les musiques traditionnelles, une musique orale et non écrite. Voilà, c'est vraiment ce. Je crois que là, c'est vraiment un des caractères principaux de mon travail. Essayer de coucher par écrit des choses qui ont un fonctionnement oral et inversement. À la suite de ce concerto, et là on approche déjà de la fin de ces 15 minutes, je vais commencer à plancher à mon premier opéra qui s'intitulera Terre rare et qui traitera de la question une question très actuelle des intelligences artificielles. Alors, très brièvement, c'est l'histoire d'une expédition scientifique au Groenland où, en gros, tout ce qui est prévu ne marche pas. Enfin, vraiment, c'est catastrophe sur catastrophe. Ce sont des humains et des robots ensemble qui doivent récupérer l'un des leurs, un robot qui est tombé dans une crevasse. Et tout ce qu'ils essayent rate. Et voilà, je ne vais pas en dire plus parce qu'il y a un certain nombre de rebondissements. Je ne vais pas vous spoiler, comme on dit. Mais voilà, la question des intelligences artificielles et des robots, des machines de manière générale, c'est aussi quelque chose que j'ai toujours, qui m'a toujours inspiré, même depuis le début finalement, puisque avant de rentrer au conservatoire, mes toutes premières envies de composition, je les ai testées sur un vieil ordinateur que mon père avait quand j'avais 12 ans à l'époque. Pour faire sa comptabilité à la maison. Et je m'étais mis à essayer de faire des lignes de commande en basique pour inventer faire générer des mélodies à l'ordinateur. Voilà, c'était pas aller bien loin parce que c'était quand même assez casse-tête. J'avais pas de mentor pour m'aider. Et puis le piano est arrivé assez vite pour venir m'occuper dans tout mon temps libre. Mais voilà, je suis revenu à mes vieilles marottes. Et donc, j'ai hâte de me lancer dans cette composition. Voilà, donc j'espère que par cette présentation, j'aurai pu un petit peu parler de moi, mais aussi j'espère que vous aurez eu un aperçu des thématiques qui peuvent aujourd'hui susciter le travail d'un compositeur aujourd'hui en France, en 2019. Merci à tous, à bientôt.